Bonjour, cher Frédéric Barrère. Alors moi, je vous proposais du grand bleu, c'est-à-dire celui du ciel, et après du grand blanc, celui de la neige, mais qui font quand même très vite. Ça s'appelle la montagne. Vous allez avoir des traces d'animaux, puis deux bipèdes naturalistes pour nous raconter tout ça. C'est pas mal, hein?
Ah, c'est pas mal, on vous accompagne.
Allez, vendu.
Oh merde.
Qu'est-ce qui se passe?
Elle est sec.
Qu'est-ce qui a pu faire une chose pareille?
Il y a des cochons sauvages par ici. Dès qu'ils sentent de la bouffe, ils viennent comme enragés.
Mais alors, tu pouvais pas nous le dire plus tôt, on aurait mieux protégé nos sacs.
CO2, mon amour.
C'est pas ma faute, hein, c'est les cochons, merde.
Ouais, c'est ta faute, hein. T'es responsable de l'expédition, mec. Alors qu'il y a une couche, c'est toi. Les cochons, fallait les prévoir, c'est tout.
Avec Denis Chessou.
Dans ce genre de situation, il faut essayer de garder le moral et de voir le positif. D'accord?
Attends, c'est quoi le positif, connard?
Sur France Inter.
Les sacs sont plus légers, déjà.
Alors nous, je vous rassure, ça va être un peu plus cool que dans cet extrait donc des randonneurs, donc dans cette émission qui tente de rapprocher les hommes ou nous rapprochons de la nature. Bonjour à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour avec aujourd'hui Paul Percheron à la technique et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Alors avant de vous emmener dans ce fameux grand bleu, c'est comment dehors, demande le marmoton qui ne s'est jamais débarbouillé le museau au grand jour. Y en a marre de se terrier ? Bah oui, mais c'est trop tôt. Le 7 mars, pour sortir, c'est trop tôt. Tu vas encore attendre quelques jours. C'est la lumière qui nous dictera. Si tu sors maintenant, en 10 minutes, tu te feras pécho par l'aigle ou le renard, jeune inconscient. Et grâce à toi, dans leur estomac, tu nourriras leurs petits. Ah bah elle est pas drôle ton histoire, maman ? Elle est prudente. C'est celle de la vie, de la nature et de notre espèce. Oui, mais ça s'appelle être confiné. Non, ça s'appelle être une marmotte. La vie chez nous est une grande patience. 6 mois dehors, 6 mois dedans, c'est comme ça. Chez les marmottes, tu vas au lit encore quelques nuits. L'hiver, il y a peu, s'est travesti en printemps. Il a décidé maintenant d'en remettre un coup. Bise de nord-est sous le bras, reprendre la main, réaffirmer ce qu'il est. Une saison froide, nécessaire aux végétaux, aux animaux, aux humains trop chauffés. Mais là-bas, en bas, dans la vallée, dans les plaines, premier maquillage de fleurs, les primes verts, primo verre, début du printemps, se fichent du calendrier. Primes verts, alors oreilles d'ours, des jardins ou officinales, elles sortent la boîte de couleurs. Les jonquilles pétaradent, le forsythia se cherche, mais en altitude, le mot printemps n'apparaîtra pas au générique avant mi-avril-mai. Et les animaux regardaient les humains. Mais pourquoi faites-vous comme avant? C'est-à-dire coller des rustines sur vos habitudes en pensant que la technique va résoudre toute seule l'affaire. Ah ouais, quand même, un masque, ça n'empêche pas forcément de penser. Alors c'est drôle, l'homme est comme avec une femme qu'il aime, elle le tient debout, si elle le quitte, il tombe. La nature fera pareil avec lui à force de maltraitance. Quand on est incapable d'inventer des lendemains au-delà du court terme, c'est comme jouer au funambule quand on n'est pas du métier. « Mais que veulent-ils ? » demande le martin pêcheur entre deux éclairs de couleurs au ras de la rivière. « Tout ou rien. Mais ils le veulent tout de suite. Et ça, ça les tue. Alors continue à valser comme un passager du vent. Et je sais qu'on est maladroit quand on prévoit l'avenir. En éclaireur, le personnage sans bonnet, sans gants, pousse et fleurit en fin d'hiver. On le dit synonyme de consolation et d'espoir. Et bien, il nous en faudra quand même pas mal de l'espoir. Et Emily Dickinson, délicieuse poétesse américaine, donc écrivait « L'espoir est la chose avec des plumes qui est perchée dans l'âme et qui chante la mélodie sans les paroles. Et jamais ne s'arrête, jamais. » Et qui est la plus douce quand on l'entend dans la tempête. Et puis elle disait aussi, ce que je peux faire, je le ferai, même si c'est aussi petit qu'une jonquille. Bref, du colibri avant l'heure. Alors je vous le disais, donc une bouffée de bien-être et d'amitié, ça va être dans le bleu 05 de la montagne, entre hiver et printemps. Donc une émission garantie, sans test salivaire, sans picouse, sans masque. Allez, la page nature, c'est maintenant.
On entend la grive de reine, elle va chanter de plus en plus avec l'arrivée du printemps. Et ça, ça reste un truc extraordinaire, voilà, qui marque quelque chose, quoi. Les matins de printemps, là, quand il y a encore de la neige, que les tétras se mettent à recouler, que la grive de reine chante, enfin voilà, on passe d'une saison à l'autre avec ces jours qui se rallongent aussi. Ouais. Donc là, on sent, et c'est ça ce que j'adore, c'est qu'en fait, on sent qu'on a basculé, mais on est quand même encore quelque part dans l'hiver, quoi. Alors on a les parades nuptiales de certains animaux qui vont commencer à se déclencher. Il y a le lynx, les loups, c'était au mois de février, mais bon, on les entend moins, mais voilà. On a les tétras qui vont commencer à chanter de plus en plus. On a les petites chouettes la chevêchette, la tangmam qui vont commencer à chanter aussi et qu'on a même déjà entendu. Hein, moi j'ai entendu des chants spontanés déjà de chouette chevêchette. Donc voilà, ça vient doucement. Puis d'un coup, paf, tout peut s'arrêter. Moi c'est ce que j'adore aussi, c'est que si on a un peu un manque d'hiver, on peut se reprendre une dose là pendant 3 jours, ouais. Une vraie dose.
Alors c'est juste ces moments volés à la morosité ambiante, au blues sans bluesman, un pas de côté pour s'extraire du grand huit qui veut asservir le monde et la terre. Non, ici ce seront des pas, du silence, des respirations. Alors celle invisible de la nature, du petit peuple encore endormi sous terre, celle des fleurs qui savent attendre, celle des nids qu'il faut préparer pour perpétuer l'espèce. Et puis il y a aussi les respirations visibles de 3 hommes amoureux du blanc, du vert tendre, des adrets, des ubacs, des pics, des mélèzes. Vous avez Christian Couloumi, qui est bon monsieur Montagne depuis une vingtaine d'années, une vie consacrée à la protection de la nature, à la pédagogie. Aujourd'hui, il est président de notre association Envergure Alpine, hein, qui s'occupe de rapaces. Et Jean-Michel Bertrand, vous le connaissez aussi, dit Milou, qui a donc réalisé La Vallée des Loups, Vertige une rencontre, Marche avec les loups. Et enfin, pour moi, ce sont les plus belles bandes annonces de son département des Hautes-Alpes. Nous sommes dans son lieu d'enfance et d'aujourd'hui, dans le Champsaur. Alors, on est à 20 km au nord de Gap. Nous sommes en fait sous le regard du col du Noyer. Saint-Bonnet est à nos pieds. Alors, est-ce qu'il y a un thème précis ? En fait, non. C'est une rencontre, c'est un moment avec vous, avec la procuration que vous me signez chaque semaine, Procuration Nature. Ou, enfin, si, il y a un thème. Que la vie est belle quand on sait vivre avec la nature.
Oh là là.
Eh bien, vous savez, j'ai envie d'appeler ce reportage le cadeau. Mais comme nous sommes des gens tout à fait hédonistes, on a aussi envie de vous le faire partager. Bonjour Jean-Michel Bertrand.
Bonjour Denis.
Bonjour Christian Couloumi.
Bonjour Denis.
Alors, nous sommes invités chez vous dans ce Champsaur. Et c'est un de vos petits paradis ici.
Ah ouais, complètement. Là, c'est mon paradis, pas loin de la maison, mais tellement sauvage, tellement beau.
1500 mètres d'altitude. Et alors on est sur cette césure, c'est-à-dire qu'on a encore de la neige. Le printemps s'est pas totalement développé. Mais Christian Couloumi, je vous vois avec vos jumelles parce que là on est sur un promontoire. Et là vous avez votre copain Aigle.
Il niche dans le coin. Alors ça c'est un perchoir habituel où ils viennent. Ce qu'ils font là, ils vont pondre bientôt. Ouais. Et ils font le ménage autour de leur territoire. Et pour faire ça, bah, c'est pas comme la grive qui chante. Eux font des démonstrations aériennes. Qu'on appelle des festons. Donc, c'est des vols où il y a une chute, et puis remontée, puis chute, puis remontée. Et ça veut dire aux autres, bah, c'est chez moi, ici. Et peut-être que ça veut dire à Madame Aigle, ou à Monsieur Aigle, je ne sais pas, que peut-être il y a moyen de, voilà, d'aller faire un tour dans les buissons.
Regarde là-bas derrière, regarde, il est passé. Là, tu le vois. Voilà. Ah ben voilà.
Hop. Et on se retourne, et là, le panorama sous les yeux, on a les écrins. On a votre village. Ah oui, et puis Christian. Donc.
Oui, bah alors ça, c'est la montagne sacrée de Jean-Michel. C'est le vieux Chaillol. Ah oui. C'est le 3000 du coin qui domine vraiment toute cette partie sud du massif des Écrins. Ah. Et de là-haut, bah, on voit tout, quoi, aussi. Mais de là où on est, on le voit lui. Et on voit beaucoup d'autres choses.
Vous, c'est le Mont Guillaume au-dessus d'Ombra.
C'est ça. Oui. Mais je ne sais pas s'ils se voient directement tous les deux, je ne crois pas. Non. Mais pas loin.
Mais on a tous nos montagnes. Et moi, du vieux Chaillol, je dis toujours... Quand j'étais gamin, c'était « on voit la mer ». On voit la mer, alors maintenant je dis « on voit tout, les goélands, les sardines dans le pont de Marseille, on voit tout ». Quoi. Mais on en rajoute à peine, mais on voit beaucoup. Un jour de bise, là, où il y a du vent, vous êtes en haut du vieux Chaillol, il y a une vue de fou. Quoi. Et ce que j'adore, là, c'est de me dire qu'on a plusieurs semaines pour observer les aigles, justement, et se dire que, voilà, on va voir l'évolution de ce qui va se passer. Et puis, il y a cette grande surprise, et c'est ce moment du choix de l'air, le choix du nid.
Et puis, c'est haletant, quand même, parce qu'on ne sait pas, c'est un peu comme les élections, on ne sait pas qui va gagner, là, mais on ne sait pas quel air va être choisi, et c'est une incertitude qui nous comble de bonheur, parce qu'on aime bien ne pas savoir, ne pas tout savoir de la nature.
J'aurais pas pris ça comme image, mes élections, parce qu'on est tellement bien.
Oui, mais c'est vrai, elles sont loin, mais c'était pour illustrer le côté... On sait pas du tout ce qui va se passer. Ouais. Et même ces coquins, là, parfois, ils ramènent des branches dans une aire et puis ils nichent dans une autre.
Dedans, il peut y avoir différentes habitations, en fait, l'aigle. C'est-à-dire qu'on parle d'une aire, mais il peut en avoir plusieurs.
Oui, le couple, dans un territoire qui est assez grand, il construit plusieurs nids. Alors, ça correspond sans doute à leur besoin de le faire. Quoi. C'est une pulsion, un toc. Et puis, ça a sans doute un sens entre les partenaires. Donc il y a l'accouplement, évidemment, qui a un sens très profond, si je puis dire. Et puis il y a le choix des nids et l'aménagement des nids.
Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs nids. Et... Ah oui. Alors pourquoi?
C'est pas lié aux saisons, c'est pas des résidences secondaires.
Alors c'est pourquoi pas... c'est un questionnement, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi.
Regarde, Milo, là, tu vois, derrière les sapins, c'est des sapins là, c'est pas des mélèzes, mais tu vois, juste derrière le col là. Ouais, voilà. Ils volent en rase-botte, en radada. Là, il passe à l'ombre, on le voit plus. Et voilà, il passait il est en contre-jour. Il volait près du soleil comme le phénix.
Alors là, on a des sapins, puis au-dessus, on a les pins accrochés.
Ah, les cimbreaux.
Et les cimbreaux.
Les cimbreaux derrière aussi.
Voilà. Il y a des pins accrochés, des cimbreaux. Et on a les casse-noix, d'ailleurs, qui sont bien liés.
Alors, le casse-noix moucheté, on le rappelle, voilà. Donc, qui est un corvidé, et qui est totalement donc inféodé à ce pin cimbreau, parce qu'il va récolter des graines, et puis ils vont en oublier.
Voilà, et comme les écureuils. Et on le voit hein, quand on se balade là, dans ces pentes, bon, qui sont quand même raidasses, hein, moi que j'adore, eh ben, on voit toujours des jeunes pins cimbreaux qui font 10 cm de haut, alors ils ne survivront pas tous, mais ils ont été transportés là par les casse-noix.
Et alors nos chères marmottes, bon, il faudrait du pierrier, mais elles ne sont pas encore sorties.
Alors là, je pense qu'on les a sous les pieds.
Ouais, elles sont là, il y a des trous là, dans ces pentes-là. Là, il y a plein de trous de marmottes, là, et même là, elles nous entendent.
Oh, les marmottes. On tape un peu, non, elles ne sortent pas.
C'est les voisines du dessous pour le moment. On va attendre encore un petit mois. Il y a l'horloge interne qui est réglée et il faut que je sorte. Et on voit en altitude faire des galeries de 2 mètres de profondeur. Elles sortent dans un univers totalement blanc et elles vont à pied, évidemment, sur une bosse qui a été brossée par le vent pour manger un peu d'herbe. Elles reviennent, elles ont les pattes sales, elles salissent tout le chemin et on voit des tracés en étoiles depuis ce trou au milieu de pentes immaculées. Et l'aigle, ben, il les voit aussi, lui.
Alors voilà, c'est ce que je veux dire. Je me régale, je les vois sortir.
Les aigles, les renards, mais il y a des années compliquées pour elles. Quoi.
Pas que du fait de l'aigle d'ailleurs, du fait des conditions pour trouver à manger et tout ça. Quoi, la nourriture,
En file indienne, mais alors sans indien, toujours avec Jean-Michel Bertrand, Milou et Christian Couloumi. Coulou. Christian, vous savez, là sur France Inter, on a cette immense liberté. On va vous offrir un petit bout de silence. Et en fait, c'est du silence habité. Vous entendez donc les oiseaux. Et ça aussi, ça nous remet à notre place, ce fameux silence en montagne.
Il y a 0 décibel, là, pratiquement. Et ça, c'est quelque chose de rare. On n'en prend pas forcément conscience. C'est un peu comme quand il y a de la lumière, quand on l'éteint. Tiens, ça a changé d'un coup. Et ben, c'est ça. Le bruit, on éteint, il n'y a plus rien. Et ben... C'est le noir, et c'est un beau noir, qui fait peur parfois. Hein. Les gens, dans le silence, sont pas à l'aise. Ils se sentent obligés de siffler, de crier, ça les dérange, on n'est pas habitué au silence.
On est dans la paume, en fait, de la nature. On est environné, avec quelques petits cols, par rapport au tumulte du monde, par rapport à la frénésie totale dans laquelle on a immergé les gens, pour aller toujours plus vite vers on ne sait pas toujours bien quoi. Là, on est dans une petite vérité du monde. Quoi.
Un grand nombre de réponses aux questions les plus fondamentales que nous nous posons se trouvent là. Alors après, ce n'est pas pour l'idéaliser, parce qu'il y a une cruauté, la vie vaut toujours son prix et elle est toujours mise en danger, même la nôtre d'ailleurs, à cause des avalanches, des accidents ou d'autres soucis, des chutes de pierres ou des chutes tout court. Pour les animaux, quand on assiste à cette aventure de la vie, ben, on voit que ce n'est pas tout simple, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on a une lisibilité. Et par rapport justement à ces incertitudes de ce monde tumultueux dont vous parliez, on avait une forme d'infini. C'est-à-dire que se dire, voilà, les saisons se perpétueront, les espèces se perpétueront, et puis on a peut-être appuyé un petit peu trop fort. Et là, on a une autre incertitude dans cet environnement, c'est le réchauffement climatique, qui là nous met un petit coup de pression, parce qu'on se dit quelque part, il y a une résilience de la nature. On a vu revenir les loups, on a vu revenir les aigles royaux depuis qu'ils ont été protégés dans les années 1970. Aujourd'hui, tous les territoires sont occupés ici dans les écrins, dans le dévolu et ailleurs par les aigles royaux. On a une résilience de la nature incroyable. On se dit, si demain, on avait des dirigeants responsables qui réussissent assez courageux à nous faire arrêter les pesticides, eh bien, je suis convaincu que dans 20 ans, vous auriez à nouveau des insectes et des oiseaux. Ça, c'est la résilience de la nature. Ça, ça donne du courage. En revanche, quand on voit le problème du réchauffement climatique, là, on se dit évidemment que la nature s'en sortira. C'est clair. Elle s'en sortira, mais il y aura des bouleversements.
Oui.
Et nous, on aura des dommages collatéraux qui vont être colossaux. Et donc là, il y a un côté aussi qui est un peu angoissant, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je disais qu'on est bien dans la nature, c'est pas qu'on l'idéalise, c'est pas une nature bisounours. C'est une nature qui peut être très rude, mais qui a une lisibilité à un infini.
Nous avons encore des réserves de ciel bleu, de neige, de soleil, de respiration pour vous. Ah bah, sur France Inter, juste après ce disque. Choisi par Thierry Dupin, notre programmateur sur France Inter dans C'est haut de mon amour. C'était Balthazar, donc un groupe belge, ça ne s'entend pas forcément, donc des jeunes de Courtrai. Et ils ont un excellent prof d'anglais, et donc ça a donné cette chanson.
C'est à toi ça, hein? T'es pas dans une décharge ici, vieux. T'es dans un site que tu dois traverser avec respect. Et le respect, c'est pas de déposer tes crasses un peu partout.
C'est haut de mon amour.
Bon alors écoutez-moi bien, on va faire un contrat tous ensemble. Tous les déchets doivent être conservés dans les sacs, ok?
Denis Chessou.
Bon, contrat?
Contrat?
J'ai pas entendu.
Contrat?
Sur France Inter.
Tu refais ça, je te pète la gueule.
Voilà, c'est une méthode un peu expéditive, mais au moins, si vous voulez, on comprend. On devrait toujours avoir effectivement ce sac dans sa poche pour ramasser les saloperies des autres. Alors, ils sont trois compères, montagnards, scrutant le ciel et aussi regardant les traces, en regardant donc les différentes parois. Nous avons Jean-Michel Bertrand, nous avons Christian Couloumi, tout le monde est là, les animaux aussi, on continue.
C'est
une mésange boréale.
Je pense que c'est la boréale que j'adore. Et qui là fait son petit cri de son petit chant en fait territorial, mais qui des fois ce chant très mélancolique, ce tu la mésange boréale. Ah ouais, c'est très mélancolique, très beau. Et elle ressemble à la mésange nonnette, mais c'est pas une mésange nonnette, elle n'a pas du tout le même chant, et c'est une mésange de montagne.
Une mésange nonnette qui a son petit plastron noir, parce qu'elle ressemble à une nonne, c'était ça.
Elle n'a pas vraiment un plastron noir, non, elle est grisounette plutôt, avec une bavette noire.
Ah, c'est la bavette, pardon.
Comme un avocat, mais le contraire,
c'est ça.
La bavette est noire, et elle est très bien taillée, alors que chez la mésange boréale, elle s'étale un peu sur les côtés. La différence est difficile à percevoir, mais quand on est habitué, on le voit bien.
Bon, bah j'ai encore des cours à prendre sur la nonnette.
Il faut revenir.
Tiens. Et donc là, on est, on voit bien, hein, le soleil commence à remonter doucement. Les ombres sont déjà différentes.
Et ça change de couleur. C'est des lumières magnifiques le soir. Il y a les contrastes. Et puis la neige, elle n'est pas blanche là. Elle est légèrement jaunâtre, enfin un beau
avec
doré.
Avec des ombres gris bleu.
Oui, c'est ça. En fait.
C'est trop beau. On est trop bien.
On dort là ?
Ah ben.
Ah ouais, tiens.
Écoutez, on va se mettre les uns sur les autres pour se réchauffer.
Oui, bien sûr. Parce que là, en fait, on a quitté la lisière, on a quitté donc la forêt, on est un petit peu plus haut. Bon, mais on n'a qu'à se planquer dans votre forêt là.
Ah ben là, le nombre de bivouacs que j'ai fait là. Je crois que je sais même pas combien j'en ai fait. Ouais. Mais ce qui est fabuleux, c'est que c'est ça, c'est toujours comme une fête. Moi, j'arrive à 60 balais, là. Et j'ai cette espèce de côté enfantin. C'est-à-dire que de me réjouir, comme disent les Suisses, d'ailleurs, je me réjouis de savoir que dans les prochaines semaines, je vais dormir là, je vais assister aux parades des aigles, mais ça donne un sens à ma vie. Ah ouais. Alors que c'est un truc tout bête, quoi.
Oui, mais vous avez votre réserve de rêve encore et de plaisir quoi, à venir comme ça.
C'est infini. Ouais. Je le redis, c'est infini.
Alors Jean-Michel, il y a aussi donc certaines traces. Et alors il y en a une qui est très belle, c'est celle que vous nous montrez. C'est-à-dire qu'il y a à la fois votre pas et dedans, il y a une trace de loup. C'est quand même dingue.
Ça. Ouais, ça j'adore. C'est-à-dire que qui suis plutôt habitué à suivre les pistes de loup, eh bien parfois je me fais avoir et j'adore ça. C'est-à-dire que je viens là, je me balade, et je reviens, pouf, la trace, l'empreinte du loup dans mon empreinte à moi. Et c'est comme un clin d'œil, ça peut être un petit pied de nez, et j'adore ça, quoi. Puis le fait de se dire que dans un intervalle très faible de temps, en une heure ou deux...
Parce que celui-là, vous ne l'avez pas vu, hein.
Mais souvent, on ne les voit pas. Hein. Et ça nous rappelle qu'ils doivent nous voir plus souvent que ce qu'on les voit, évidemment.
Alors, qui c'est quelque chose du 41 non, à mon avis, c'est vous. Et puis le loup, c'est un peu moins.
Oui, c'est un peu moins, mais c'est toujours des traces émouvantes, quoi. Surtout quand elles sont fraîches comme ça. C'est fabuleux.
Le soleil va passer derrière la montagne.
Non, il passe dans pas longtemps, là, ouais. Il va nous faire coucou et alors les choses vont changer d'un coup. Hein. C'est ça la montagne aussi. Hein. C'est que là il fait chaud, on est bien. Et quand le soleil va passer, on va vite comprendre qu'on n'est plus dans notre environnement naturel, quoi, qu'il faut un peu se battre ici. Et on va laisser les bestioles, les bêtes, comme dit Sylvain Tesson, leur triste mais belle vie, leur dure plutôt que triste vie. Et nous on va rentrer se mettre au chaud. Et ça j'y ai toujours pensé. Hein, quand les conditions sont comme ça, on retourne au chaud. C'est rare que des gens restent comme ça. Eux ils sont là. La petite mésange boréale dont on parlait, qui doit peser 6 grammes, 7 grammes, ben elle tient le coup. Formidable.
Ouais, en autonomie totale, et moi j'adore ça, et donc même au bivouac, parce que quand on est au bivouac, évidemment, on a le duvet, on a le matos. Si on n'a pas le matos, on meurt. Ça va être très simple, surtout en hiver. Voilà. Mais donc on est vulnérable, on est obligé d'avoir les habits et tout. Et on pense à ces petits passereaux, on pense à tous ces animaux, on pense à cette magie, les marmottes qui ont été, voilà, que la sélection a fait, qu'elles ont préféré, pour elles, c'était plus intéressant de dormir pendant 6 mois. Que de se battre, mais c'est dingue, c'est un miracle aussi. Donc on pense à tout ça, c'est là que ça nous émerveille.
Il y a un petit truc que je voulais dire, j'en profite. Tout à l'heure, Jean-Michel Milou, il a parlé de cruauté. La cruauté, c'est pour nous, c'est nous, là, parce qu'on sait ce qu'on fait. Et chez les animaux, il n'y a pas de cruauté. C'est notre interprétation. Quand un loup attaque une proie, il ne fait pas ça pour lui faire du mal, il n'y a pas de plaisir à le faire. Il va bouffer, c'est tout, point.
Puis il préserve la ressource.
Bien sûr.
C'est-à-dire que le seul être incapable de préserver la ressource et de taper un peu trop fort dans la caisse, c'est nous. C'est pour ça que quand on parle de... On dit l'homme est un prédateur aussi. Moi, je ne dis pas ça du tout. Je dis qu'il y a des prédateurs sur Terre et l'homme est un destructeur. C'est très différent.
Voilà, oui.
L'homme n'est pas un prédateur, c'est un destructeur. C'est très, très différent.
Quand on parle de prédation, et donc de prédation humaine, il y a un animal qui n'est pas bien du tout en ce moment, c'est le lagopède de Christian Couloumi. Donc notre lagopède, relique glaciaire hein, aussi, un peu comme le tétra, donc il a besoin de froid. Et donc à partir du moment où on a le réchauffement, il est obligé de grimper en altitude. Alors déjà c'est difficile, mais là où je parlais de prédation, c'est qu'on peut encore le flinguer.
Oui, alors ça c'est scandaleux, il vit dans des conditions très difficiles, son univers se réduit, et puis là où il est, comme ça se réchauffe, le milieu va changer, et d'autres espèces vont venir, contre lesquelles il ne pourra pas se battre. Ça va favoriser sa disparition. Et encore aujourd'hui, alors qu'il y en a, on sait très bien que c'est une courbe qui plonge, nos petits-enfants n'en verront peut-être pas, hein, sera peut-être disparu. Eh bien on continue de le chasser, non mais franchement, quoi, c'est...
C'est mécanique, il disparaîtra mécaniquement. Parce que le réchauffement climatique, d'autres espèces, et puis il ne pourra pas prendre une échelle pour montrer plus haut qu'au-dessus. Quoi.
Il ne sait pas vivre dans la forêt. La forêt va grimper là-haut. Ouais. Qu'est-ce que je fais là? Il a mis des millénaires à s'adapter. Là, en quelques dizaines d'années, c'est en train de changer. 100 ans maximum, il n'y aura plus du tout le même paysage. Lui, en 100 ans, ils n'auront pas le temps de s'adapter. Hein.
Mais c'est là que ça va laisser beaucoup d'espèces sur le carreau et qu'il y aura des problèmes, même si, comme je le disais tout à l'heure, la nature, elle, s'en sortira et s'adaptera, mais ça va faire beaucoup de casse. Et ça fera de la casse, évidemment, aussi, au niveau des sociétés humaines. C'est-à-dire qu'il va y avoir inévitablement, de la même façon que le lagopède va être coincé par l'arrivée d'autres espèces et le changement, surtout, du biotope complet, quoi, de la nourriture disponible, etc., ben nous, il va y avoir des mouvements de population parce qu'il y a des gens qui ne pourront plus vivre là où ils ont toujours vécu. Et
bah du en coup, pleine, dans le Gard à 45 degrés ou 46 degrés.
Voilà. Donc c'est toujours sympa de se rassurer en disant qu'on pourra faire du Côte-du-Rhône en Alsace. Oui. Mais je veux dire, c'est un peu léger de réagir comme ça. Quoi. Moi, je veux dire, on peut se rassurer comme on veut, mais voilà. Alors moi, sans être l'oiseau de mauvaise augure, évidemment.
Bon, je suis une grande lucidité.
Je pense qu'il faut être lucide.
Alors nous avons été lucides, peut-être qu'on va être un peu glucides maintenant, éventuellement.
Pour de vrai, le soleil, il est en train de nous quitter. c'est vraiment une chasse.
Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Mais tu veux rester avec nous ? Tu vas nous laisser un peu de temps quand même ? Eh ben non, il ne veut pas.
Oh, la lisière, si elle est belle là. On dirait qu'il fait presque nuit, c'est fou parce que les montagnes sont encore tout éclairées, tout ensoleillées, puis là... Dans le sous-bois, on va rentrer dans la nuit. D'ailleurs, il fait beaucoup plus froid. Ça caille, mais il n'y a pas d'air. Regardez là, les ombres.
Voilà.
C'est sublimissime, quoi. C'est-à-dire, on voit des ombres d'une longueur, ça rase tout, c'est énorme. Est-ce qu'on arrivera à le faire passer aux auditeurs, à faire passer cette émotion, cette vision aux auditeurs?
Écoutez, c'est trop beau. On va prendre 2-3 photos.
On prend des photos, mettez-les sur votre site.
Ouais, ce qu'on va faire, mais ça je pense que le...
La photo de l'instant, là.
Voilà. Bah, écoutez, on vous laisse, hein. On vous a offert un peu de silence, on vous a offert un peu de lumière... On vous a offert une page animalière. Et hop, nous, on va redescendre. Bah écoutez, merci beaucoup Jean-Michel.
Merci Denis pour l'invitation. C'était un plaisir, on s'est régalé.
C'est celui qui nous invite en plus, il nous remercie, hein, Christian.
Merci à vous deux, merci à vous Denis. Et à toi mon Milou adoré qui nous a encore invités dans ton paradis.
On va continuer à déambuler par ici.
Jolie bouffée du Champsaur, donc dans ce département des Hautes-Alpes. Alors, on peut retrouver, je dirais indirectement, Jean-Michel Bertrand et puis Christian Couloumi. Christian avec un ouvrage qu'il a écrit qui est vraiment une somme hein, sur les rapaces entre ciel et terre aux éditions Glénat. Et puis aux éditions de la Salamande, vous retrouverez donc Marche avec les loups et puis La vallée des loups. Donc c'est deux films là. Il prépare donc un autre film encore, donc une autre ambiance qu'il affectionne et qu'on partagera donc d'ici quelques mois. Et puis nous, on va changer de montagne. On va aller d'une montagne à l'autre, des Alpes aux Pyrénées, alors sur un tapis volant, un tapis de prime vert, atterrissage dans une estive de l'Ariège. On est au col de l'Accor, on est à 300 mètres du col de l'Accor, on est sur la commune de Centenac-d'Oust, on est dans le pays de Couseran. Et donc là, c'est une demande d'aide, une initiative parmi les milliers hein, que nous présente par exemple Philippe Bertrand ou bien CO2 Mon Amour, qui fera vivre mieux ce coin d'Ariège. Ce garçon a 33 ans, il est éleveur et berger. Bonjour Antoine Cottereau. Alors s'il vous plaît, on ouvre votre fenêtre en plein air et racontez-nous.
Bonjour Denis. Eh ben c'est assez boisé. On est sur une estive de basse altitude, donc on devine les pâturages juste au-dessus. Il y a la petite cabane de berger à côté de moi, la fromagerie en construction, les restes des bâtiments qu'on utilise l'été pour les bêtes.
On est à peu près à 1400 mètres d'altitude, hein, là où on est, et sur un très beau chemin hein, qui s'appelle le chemin de la liberté.
Ouais, parce qu'à une époque, c'est par là que les Juifs fuyaient la France pour rejoindre l'Espagne.
Originellement, donc, il y avait une bergerie, et puis en fait, elle s'est écroulée donc avec le temps. Et vous avez cherché donc à la reconstruire. Et là, ça commence à se gâter un petit peu.
Ouais, au bout de 5 ans de construction, on a d'abord les services d'hygiène qui passent, mais avec eux, on arrive à s'entendre, et ensuite la commission des risques de la DDT qui nous annonce qu'on a construit en zone d'éboulement et que donc, après 5 ans d'efforts à tout transporter avec nos ânes pour reconstruire la fromagerie des anciens, il n'est plus question d'y mettre les pieds, voire même elle devrait être détruite pour notre propre sécurité.
Et donc, vous avez souhaité reconstruire une autre bergerie et c'est là que vous avez besoin d'aide et que vous avez besoin d'argent.
On a besoin d'aide. On a fait au maximum selon nos valeurs, quoi, avec tout ce qu'il y avait sur place. Donc les murs, ils sont bâtis avec les pierres qui jonchent la montagne autour de nous. Le toit, il va être soutenu par la charpente qu'on a taillée dans les arbres qu'on a abattus autour de l'estive. Mais il y a tout un tas de choses qu'on ne sait pas faire nous-mêmes. Et il y a tout un tas de copains artisans qui nous aident, qu'il faut payer. Et là, nous, ça coince parce que tant qu'on n'a pas de fromagerie, on peut pas vendre de fromage. Et du coup, économiquement, c'est un peu serré. Donc on a mis en place un financement participatif sur une plateforme qui s'appelle Mimosa.
Avec deux i.
On essaye un peu de faire parler du projet. Ouais, Mimosa voilà. Avec deux i.
Voilà, et ensuite sur Mimosa, qu'est-ce qu'on fait? On tape l'estive de l'usure, L-U-Z-U-R-S.
Ce qui veut dire les ours en patois.
Alors comment ça se passe d'ailleurs justement avec les ours? Parce que vous faites pas trop attraper de bêtes.
Et non, nous on est nombreux, c'est un projet où on a décidé de faire avec un minimum de technologie et de machines. Du coup, il faut beaucoup d'humains et c'est un gros challenge. Mais ça fait que comme il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'odeurs et donc on n'a aucun problème avec l'ours alors que les voisins se font très régulièrement tuer des animaux. Mais les voisins, ils sont sur un système plus classique d'un berger pour 1000 brebis et c'est plus facile pour l'ours de se frayer un chemin, quoi.
Alors, ce projet, donc, qui est déjà en mouvement, donc, coûte 45 000 euros. Vous avez récupéré déjà 31 000 euros. Alors, on fait ça pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce qui vous anime, vous, comme valeur?
Nous, ce qu'on aimerait, nous, c'est retrouver un mode de vie qui soit à la fois plus respectueux de la terre qu'on cultive, des animaux qu'on élève et de nous-mêmes aussi. Qu'on puisse avoir une vie simple, mais une vie digne. Et ça, c'est quelque chose qui a mis des générations à être détruit et qui mettra peut-être des générations à être reconstruit. Mais moi, je crois que c'est vachement important de dire que petits paysans autonomes qui décident de travailler plutôt avec ses copains qu'avec des machines, c'est pas un métier du passé. On pense vraiment que c'est un métier d'avenir et que c'est important de dire ça aux jeunes et que s'ils ont envie d'apprendre, on est plein en Ariège à faire comme ça. Et à travers le monde, il y a encore tout un tas de... Enfin, je pense que c'est plus de 50% des agriculteurs qui travaillent encore comme ça.
Ça, c'est même plus que 50%. Je crois qu'on est, vraiment de 75%. On est sur une estive communale. C'est très important, ça.
Ouais, ça, c'est très important. Il n'y a encore pas longtemps, il y a une énorme partie du territoire français qui était du communal. C'est-à-dire que ça sortait de la propriété privée. Et c'était aux paysans, aux usagers, aux paysans, c'est quelqu'un qui vit dans le paysage, à tous les gens du paysage, de s'organiser entre eux pour se partager ça. Et aujourd'hui, ce qui reste de ce communal, c'est les estives, les derniers petits bouts là-haut dans la montagne, inaccessibles à la civilisation, qui restent gérés de manière communale. Et c'est hyper intéressant. Nous, ça nous oblige à partager la montagne avec des éleveurs qui n'ont pas du tout nos valeurs, qui n'ont pas notre façon de voir les choses. Ça nous permet de les comprendre. Ça nous permet de mieux comprendre, en fait, tout un tas de choses. c'est ça qui nous manque le plus, en fait, aujourd'hui, si on veut réinventer une paysannerie. C'est de réapprendre à travailler ensemble, à comprendre ce qui anime les autres, à faire des compromis, à pas forcer, ça ressemblera pas forcément à ce qu'on a décidé. Nous, ce projet-là, on est 7. Il y a tout un tas de choix que moi, j'aurais jamais fait et qui aujourd'hui, je me dis, l'important, c'est que ça continue. Et ça, c'est porté par le collectif. Et c'est, nous, c'est ce qu'on a de plus difficile à réapprendre. Je vois sur nos petites fermes paysannes où on essaye de fonctionner à plusieurs. C'est vraiment là que ça se passe, quoi.
Alors, si ce projet vous plaît, donc sur la plateforme Mimosa avec deux i, et après, donc, vous avez toutes les indications pour soutenir ce projet. Merci à vous, Antoine Cotreau, et à très bientôt.
Merci, Denis.
Puis il transhume à pied pendant 4 jours, 160 chèvres, 2 cochons, 6 poules, 7 ânes. Voilà, donc c'est une petite ferme mobile. Et donc je vous le rappelle, donc le site, je dis ça parce que c'est Mimosa, on l'écrit avec un i. Non, pour le site, vous l'écrivez avec 2 i, vous avez tout sur le site de CO2 Mon Amour. Et après, vous allez sur l'estive de l'usure, L-U-Z-U-R-S. Vous avez tout. Nous remercions. Bah oui, c'est le moment, dites donc. Merci donc à Paul Percheron, à la technique aujourd'hui, à Louis Audebert aussi, qui a mixé donc notre virée dans le Champsaur, à Camille Blanès, notre collaboratrice géniale, Xavier Pessugia, non moins génial et coloriste de tout cela, Thierry Dupin qui a donc choisi le disque, là il y en avait qu'un aujourd'hui, Anne Gouzon qui nourrit les sites, et la semaine prochaine, je vais vous emmener à cheval. Ouais, vous n'êtes pas obligé de monter dessus, hein, comme moi, j'ai pas passé le permis, donc je sais pas comment ça marche. Mais donc Pascal Pic, que vous connaissez comme paléo-anthropologue, est un homme qui adore les chevaux. Donc on aura aussi des petits bouts de Philippe Noiret, de Jean Rochefort, enfin voilà. Le podcast, vous vous abonnez au podcast de l'Atelier Mon Petit Loup. L'Atelier, vous retrouverez à la fin de Barbatruc vers 17h50 aujourd'hui. Et puis le Twitter, tout simplement, Denis Chessouche.